Nous parlons à présent de l'agroforesterie dans Okapi Service. L'agroforesterie, tel que je le disais à l'introduction, suscite de plus en plus un intérêt grandissant. En République démocratique du Congo, c'est un mode d'occupation du sol qui fait cohabiter arbres, cultures et animaux domestiques. Alors, quels sont les avantages que présente ce mode d'occupation du sol et quelle est son importance? Alors, pour en savoir plus, nous recevons à présent Monsieur Jean-Robert Bouangoy, expert en environnement. Bonjour Jean-Robert.
Bonjour.
Alors, la première question de savoir, c'est quoi l'agroforesterie?
Bon, l'agroforesterie, c'est une technique culturelle qui consiste à pouvoir associer des arbres qui amènent la fertilité au niveau du sol avec les cultures pour augmenter la productivité. De manière générale, ce sont des arbres qui fixent l'azote atmosphérique dans le sol. Et ce sont ces arbres-là qu'on utilise en mélange avec les cultures.
Voilà. Et comment se fait ces mélanges-là, concrètement?
Bon, il y a plusieurs techniques d'agroforesterie. Il y a le système qu'on appelle communément en anglais « alley farming », c'est-à-dire les cultures en foulard, où on met les arbres sur une ligne et on met en intercalaire entre les arbres des cultures. Ces cultures-là vont bénéficier du fait que les arbres vont fixer l'azote atmosphérique dans le sol. Et comme vous savez, il y a un principe de solidarité des éléments nutritifs. Donc, cet azote du sol va permettre la mobilisation d'autres éléments qui, normalement, sont absorbés dans le sol. Donc, les autres éléments vont être mobilisés aussi et vont profiter aux plantes.
Voilà, vous avez dit la première façon d'opérer, c'est placer les arbres sur une ligne et à côté, entre les arbres, on place les cultures.
Exactement. La deuxième, il y a une autre façon de faire, c'est simplement de créer, par exemple, une jachère plantée.
Oui.
Donc, on peut planter des arbres, créer une jachère, des arbres fixateurs d'azote. Et ensuite, dès que la jachère atteint une certaine dimension, un certain nombre d'années après, on peut maintenant débroussailler et couper les arbres en sachant que le sol est devenu beaucoup plus fertile qu'auparavant et on va planter les cultures. Et une autre façon de faire, c'est d'avoir des arbres fixateurs d'azote qui sont cultivés quelque part. On utilise par exemple, les feuilles de ces arbres-là comme paillage au sol à un autre endroit avant de planter les cultures.
Voilà. Alors, vous avez dit qu'il faut les arbres fixent l'azote dans les sols. Comment c'est fait exactement?
Bon, ces arbres-là, généralement, ce sont des espèces d'arbres qu'on appelle légumineuses. Donc, c'est une famille. Famille végétale qu'on appelle des légumineuses, elles ont la capacité de fixer l'azote de l'atmosphère. Donc, il y a l'azote normalement comme composant de l'atmosphère.
Oui.
Et ces arbres-là sont capables d'utiliser cet azote de l'atmosphère-là et pour les amener au niveau des racines à l'aide des nodulations qu'il y a au niveau de leur système racinaire. Donc, dans leur système racinaire, il y a des nodulations, et ces nodules-là vont permettre de fixer l'azote qui se trouve au niveau de l'atmosphère pour l'amener dans le sol. Et c'est ça qui amène en fait la fertilité du sol.
Oui.
Et c'est exclusivement des arbres ou des plantes de la famille de légumineuses. Vous connaissez l'acacia. Comme exemple, vous connaissez la cacha. Il y a le sénat qui est devenu très très populaire.
Oui.
Il y a aussi d'autres cultures comme le haricot, hein, qui fixe l'azote au niveau du sol ou même l'arachide.
Voilà.
Donc ce sont des arbres qui ont cette capacité-là, des plantes qui ont cette capacité-là.
Bien. Alors Jean-Robert Bangoy, quels sont les avantages de ce système, l'agroforesterie?
Comme vous savez, nos sols sont très évolués et très, très pauvres. Donc,
oui.
Contrairement à ce que les gens pensent, les sols tropicaux sont très évolués et ce sont des sols extrêmement pauvres. Ces sols-là ne contiennent pas normalement assez de nutriments dans les sols. Je parle des sols tropicaux, donc je suis en train d'exclure les sols de la région montagneuse de l'Est, hein, qui sont beaucoup plus fertiles.
Oui.
Mais les restes de sols de notre pays sont extrêmement pauvres et la fertilité est normalement remise à partir des plantes. Donc c'est pour cette raison qu'on crée des systèmes de jachères. Alors, c'est de cette manière-là que ces arbres-là vont retenir un peu de cette fertilité et ça va ramener la fertilité au niveau du sol. Autrement, les sols ne contiennent pas suffisamment de nutriments pour la production. C'est pour ça
oui.
qu'on fait la jachère
oui.
et on brûle, c'est pour remettre la fertilité au niveau du sol.
Alors Jean-Robert, certains disent que l'agroforesterie a aussi comme avantage, ça permet de réduire par exemple la pression sur nos forêts, quand on arrive à les développer à côté des forêts, donc ça permet de réduire un peu cette pression que les autochtones exercent sur la forêt. Est-ce que cela est vrai ou pas?
Oui, voilà. Donc en augmentant la productivité avec un système agroforestier, la population, puisque nous pratiquons une culture extensive. Donc les gens vont de plus en plus vers des forêts primaires où le sol n'a pas été travaillé pendant plusieurs années pour retrouver plus de fertilité. Parce qu'ils ne peuvent pas cultiver, ils ne peuvent pas planter dans le même endroit à plusieurs reprises. Puisque le sol s'épuise très rapidement, il n'est pas riche. C'est pour cette raison qu'ils vont trouver de nouveaux espaces. Donc, ils vont aller de manière extensive détruire la forêt. Maintenant, lorsque vous amenez un système qui permet de remettre la fertilité sur le sol, ça permet à ce que les populations ne puissent pas aller, continuer à aller plus loin et aller continuer à détruire la forêt primaire. Ils vont rester dans le même espace et avec la fertilité, ils vont augmenter la productivité. C'est justement l'expérience que nous sommes actuellement en train de faire dans notre projet au niveau de Lac Maïndombe, où on a montré à la communauté qu'ils peuvent planter derrière la maison. Et avec ce système-là, donc avec une fertilisation par les arbres agroforestiers,
oui.
ils peuvent planter derrière la maison. Ils n'ont pas besoin d'aller nécessairement faire la pression sur la forêt primaire.
Bien.
Et en montrant qu'on est en train d'augmenter la productivité juste derrière la maison, on est en train aussi de réduire la pression sur la forêt primaire. Et par voie de conséquence, réduire la déforestation.
Bien, nous avons en ligne un auditeur, Ogui Bendelo, qui nous appelle des Kikwit. Ogui, bonjour.
Bonjour, Ogui, je salue notre invité, M. Jean-Robert, et lui aussi tous nos auditeurs qui nous suivent, M. Zedou Kachama.
Quelle est votre question, Ogui?
Merci, Jody. Dans notre contrée, autant j'ai dit, M. Jody, il y avait du sérieux au sujet de l'agroforesterie, même le système de brûler la brousse ou savane ne se faisait qu'au début de la saison sèche. Et là, si on brûlait une brousse, tellement ce sont des grandes brousses, les villages environnants, ils venaient et attrapaient beaucoup d'animaux sauvages, tels que antilopes et autres. Et à cette époque-là, la terre était très fertile. Mais aujourd'hui, chacun brûle quand il veut, et la terre ne produit plus. Au lieu que les gens viennent chez nous pour acheter des produits agricoles, mais c'est nous qui faisons maintenant des longs trajets pour aller acheter des vivres d'autre part. C'est pourquoi je voulais demander à notre invité. Les gens là sont dans l'ignorance de ce qu'il est en train de dire là. Même il y a une série de chenilles, mais c'est jeudi, qu'on avait auparavant, mais aujourd'hui qui n'est plus. Alors je voulais poser la question à notre invité. Comment est-ce que tous les autochtones là auront cette connaissance et comment est-ce que les gens auront précaution de garder bien les broutes et les brûler au temps convenable? Voilà en bref ce qui était ma préoccupation, mais c'est jeudi. Je vous remercie.
Merci, Ogui. Jean-Robert.
Oui, bon, il faut d'abord dire que au niveau des Kikwit, la situation est encore beaucoup plus pire parce que nous sommes là à Kikwit, assis sur les sables du Kalahari. Donc, ce sont les zones les plus pauvres de la Terre. Hein? Le sable du Kalahari a été apporté ici dans le pays par le vent à partir du désert du Kalahari à une période où qui était beaucoup plus sèche. Et toute la région au sud de la rivière Kasai est assise sur le sable du Kalahari. Donc, ce sont des zones qui sont encore en train de constituer à plus ou moins la fertilité. Donc, il faut nécessairement qu'il y ait une bonne végétation pour que la matière organique puisse revenir sur le sol et fertiliser le sol. Maintenant, lorsque les gens brûlent, je sais que ça brûle de Kinshasa jusqu'à Lubumbashi chaque année ici au Congo.
Alors, est-ce qu'on peut dire que...
Je suis allé moi-même à Kikwit jusqu'à Kaemba à plusieurs reprises. Ça brûle chaque année.
Alors, monsieur Jean-Robert...
C'est vraiment difficile de garder la fertilité du sol
Jean-Robert.
Pendant qu'on est en train de faire des feux récurrents. Aussi, on a trouvé que alors qu'on brûle une fois seulement l'an, on a la possibilité de détruire les espèces invasives. Par contre, lorsqu'on brûle trois fois par an, on amène des espèces invasives au niveau de la végétation, ce qui complique encore l'équation.
Donc, Jean-Robert,
il y a des programmes.
Oui, Jean-Robert. On peut dire que l'agroforesterie est une réponse à ce problème. Au lieu de recourir au feu de brousse pour fertiliser les sols, donc l'agroforesterie est un bon moyen pour répondre à ce besoin.
Oui, en fait, le feu de brousse détruit le sol. Ça, il faut dire, c'est plutôt le contraire. Le feu de brousse détruit le sol. Il faut un système de mise en défense, mais l'agroforesterie donnerait une meilleure réponse que ça. Alors, pour répondre à notre invité...
Auditeur, oui.
S'il vous plaît, à notre auditeur, il y a l'ICRAF, qui a un bureau ici à Kinshasa, hein, le Centre international d'agroforesterie. Il y a un bureau ici à Kinshasa, et c'est mon collègue, le professeur Biloso, qui est en charge de ce bureau. Et donc, ils sont là pour aider à répandre les techniques d'agroforesterie dans toute la République. Donc, je crois que toute information, le professeur Biloso, qui est aussi originaire de Bandundu, peut répondre à leurs préoccupations.
Voilà. Alors, parlez-nous par exemple du projet d'agroforesterie que vous êtes en train de développer vers le lac Maïndombe. Et c'est sur combien d'hectares? Quelles sont les essences d'arbres qui sont plantées? Et ces arbres, vous les associez avec quel type de culture?
Oui, pour le moment, ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de travailler 300 000 hectares dans la province de Bandundu, précisément dans le territoire d'Inongo. Mais nous sommes en train d'aider les communautés à pouvoir ne pas faire pression sur la forêt et à cultiver derrière leur maison. Nous avons deux volets à cela. Nous sommes en train de faire adapter un certain nombre de cultures, notamment remettre la culture des haricots et cultiver l'oignon qu'ils achètent sur le marché qui vient de Belgique. Nous avons pu leur démontrer qu'ils peuvent cultiver l'oignon sur place chez eux. Et nous utilisons d'abord, comme espèce agroforestière, nous utilisons essentiellement le lecena et l'acacia en association avec les cultures. Bon, maintenant, nous avons pu de montrer aussi que lorsque la fertilité était trop élevée,
oui.
On avait des difficultés à avoir le bulbage des oignons. Donc les oignons ne bulbent pas lorsque la fertilité est trop élevée. C'est pour cette raison qu'à la première hauteur, nous plantons uniquement l'oignon sans le mettre en association avec les arbres fertilisateurs. Maintenant, par la suite, je crois qu'à la deuxième, à la troisième rotation, nous serons obligés de faire la culture en couloir avec l'oignon. Parce que, bon, si on met une grande fertilisation azotée, il y a une simulation plutôt des feuilles plutôt que de la production des bulbes. Donc, voilà, c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous avons déjà commencé dans 4 villages. La production est très, très bonne. Par exemple, nous avons été capables de faire pour les haricots. Je peux vous dire que nous sommes à plus ou moins 500 kilos sur un demi-hectare. Donc, c'est vraiment c'est très intéressant.
C'est très intéressant. Des questions et préoccupations à composer les 081-890-6394. Nous parlons aujourd'hui de l'importance de l'agroforesterie avec Jean-Robert Boingoy, expert en environnement.
Pour s'informer, de plus en plus d'internautes choisissent RadioCapi.net. Chaque mois, vous êtes plus d'un million à nous suivre sur www.radiocapi.net et votre avis nous intéresse. Chaque jour, une question d'actualité est à la une du site, plusieurs propositions. Exprimez votre opinion. Écoutez les résultats de cette consultation sur l'antenne chaque jour à 8h45 et après les infos de 16h30 sur radiocapi.net.
Quelle est l'importance de l'agroforesterie? Jean-Robert Boingoy, expert en environnement, est l'invité d'Okapi Service. Jean-Robert, il y a par exemple l'exemple de Mampou, vers le plateau du Bateke, où on a planté des acacias, et on a associé avec les cultures de maïs et manioc, et en outre, l'acacia permet aussi d'obtenir le miel.
Oui, tout à fait. Ça, c'est plutôt une expérience très encourageante du ministère de l'Environnement. Ils ont fait 8 millions d'hectares. C'était d'ailleurs au moment où je travaillais aussi au ministère de l'Environnement. Donc, ils ont fait 8 000 hectares à Mampou et vous pouvez voir, ils ont fait des essais de production, par exemple, de manioc. Et vous allez voir la différence entre les gens qui cultivent directement sur les sables et ceux qui cultivent à cet endroit-là. Ça, on peut assimiler cette expérience un peu plus ou moins à une jachère plantée. Donc, on a planté une jachère et on peut couper une portion de cet endroit-là pour faire la culture. Et on va voir que le sol a été largement fertilisé.
Et avec l'acacia, on peut obtenir aussi le makala, de fabriquer
le makala. Bien sûr, on obtient le makala, on peut faire l'apiculture, et voilà, c'est beaucoup plus intéressant. Donc, et en même temps, on a une meilleure production agricole.
Donc voilà, donc est-ce qu'actuellement, à travers le pays, combien de champs, disons, à l'agroforesterie, est-ce que c'est développé à travers tout le pays aujourd'hui, actuellement, ou ça se fait progressivement?
Bon, je ne sais pas actuellement combien de programmes on a d'agroforesterie, mais cette expérience-là avait été initiée par les fonds FED. Et il a été arrêté à un moment donné. Je crois qu'ils avaient même un programme pour commencer les activités à Kikwit, mais ça s'est arrêté. À Kikwit, on voulait d'ailleurs associer même avec la production d'huile de palme. Et bon, ils ont arrêté à un moment donné. C'est beaucoup plus timide aujourd'hui que ça l'était même dans les années 80. Dans les années 80, il y avait une forte... un engouement vers des projets agroforestiers, mais pour le moment, ça s'est arrêté, quoi.
Il y a beaucoup plus de projets agroforestiers au niveau de la province du Bas-Congo. Je crois que dans les restes du pays, c'est beaucoup plus timide, beaucoup plus rare.
Voilà, mais c'est un projet qui a un système qui présente beaucoup d'avantages.
Oui, ça, c'est un système qui présente énormément d'avantages. Et nous avons aujourd'hui l'avantage d'avoir un bureau de l'ICRAF sur place ici à Kinshasa. Et je crois que c'est intéressant de contacter le bureau de l'ICRAF pour avoir davantage de projets et surtout avoir les bailleurs de fonds pour financer ces activités, parce que les activités de reboisement coûtent extrêmement cher. Ce ne sont pas des activités qui coûtent moins cher. Donc, il faudrait qu'ils puissent avoir un engagement de l'État, notamment du ministère de l'Environnement, qui a la charge de ce travail, et aussi des bailleurs de fonds.
Alors, vous parlez du bureau de l'UCRAF. C'est quoi l'UCRAF?
C'est l'Institut international de recherche sur l'agroforesterie, dont le siège international se trouve au Kenya.
Ok, le bureau.
C'est le centre international pour l'agroforesterie.
Voilà, centre international pour l'agroforesterie. Et le bureau, vous avez dit, c'est à Kinshasa, où exactement?
Oui, c'est à Kinshasa. Je crois que c'est dans le quartier Sosima. Et c'est le professeur Biloso qui est responsable ici au Congo.
Voilà. Est-ce
le professeur Biloso de la faculté des sciences agronomiques.
Ok. Est-ce qu'il y a un numéro de contact pour ceux-là qui voudraient, par exemple, entrer en contact avec ce bureau?
Je vais vous donner le numéro de contact dès qu'on a terminé la conversation ici, parce que je dois retrouver sa carte de visite. Mais je crois que le prof Biloso nous suit présentement. Donc, je vais lui demander d'entrer en contact directement avec vous.
Bien, merci Jean-Robert Bongoy. Je rappelle que vous êtes expert en environnement. Merci d'avoir répondu à nos questions et à la prochaine.
Merci beaucoup.